Bonjour chères auditrices, bonjour chers auditeurs, bienvenue à tous. Aujourd'hui, le repos musical vous est présenté par Fred. Dans cette émission, il sera question de musique baroque. Et commençons sans délai en musique. Vous venez d'entendre Michel Corrette, Les délices de la solitude, sonate en ré majeur par les voix humaines. Beaucoup d'œuvres de cette époque baroque, notamment les plus marquées par le contrepoint, ont connu une longue éclipse de la fin du XVIIIe jusqu'au milieu du XXe. L'œuvre de Handel a survécu en Grande-Bretagne après sa mort, principalement à travers son œuvre la plus célèbre, Le Messie, grâce au concert de son assistant, Christopher Smith, les éditions disponibles et surtout le soutien de George III lors des commémorations tenues à Westminster Abbey en 1784. Le Messie de Handel commencera alors à se répandre en Allemagne du Nord. À Vienne, le baron Van Swieten, admirateur de Bach et Handel, commandera des arrangements, entre autres du Messie à Mozart, pour être donnés en concert. Ce dernier arrangera aussi des œuvres de Bach. Bach a été quasiment oublié de sa mort, 1750, jusqu'en 1829, qui voit le retour, initié par Félix Mendelssohn, de la Passion selon saint Matthieu dans le répertoire, après un siècle de délaissement. À la suite de cet événement, l'intérêt s'accroît pour les musiques du passé qui semblaient devoir ne jamais revenir au répertoire. Certains musicologues se lancent dans la compilation et l'édition critique des œuvres de grands compositeurs tels Bach, Handel, Charpentier, Rameau, Couperin. Les instruments ont évolué et certains ont disparu. Le clavecin ressuscité au début du XXe siècle, sous l'impulsion notoire de Wanda Landowska, ne ressemble plus guère à celui des grands facteurs parisiens du XVIIIe siècle. Les viols ont également cédé leur place depuis longtemps. Au sein de la Schola Cantorum, Vincent Dindy fit œuvre de restaurateur de la musique ancienne et baroque, de Palestrina, Bach, Monteverdi, Gluck, Corelli ou encore Destouches. Les concerts historiques de la Schola Cantorum, qui attiraient l'élite artistique de Paris, de Léon Blois à Debussy, révèlent quantité d'œuvres anciennes que l'on ne jouait plus. C'est dans ce contexte que Wanda Landowska tint une classe de clavecin rue Saint-Jacques. Oh.
Thank you.
venez d'entendre, vous qui débez, suivez les lois, les Indes galantes de Rameau, direction William Christie's, Tobias Hume, Arc, par Jordi Savall. Bach, cantate BWV 150, par Barnaby Smith, William Croft, Grund, par Bianca Harpist. Le style baroque se caractérise notamment par l'importance du contrepoint, puis par une harmonie qui s'enrichit progressivement, par une expressivité accrue, par l'importance donnée aux ornements, par la division fréquente de l'orchestre, par un groupe de solistes qui est le concertino, et par la technique de la basse continue, chiffrée comme accompagnement de sonate. C'est un style savant et sophistiqué. La représentation des mots est une priorité. Texte et mélodie sont alors confiés à une voix principale, ce qui individualise la musique. De nombreux effets vocaux et instrumentaux permettent de frapper l'imagination en figurant toute une gamme de sentiments exacerbés. Le style baroque exprime aussi beaucoup de contrastes. Les oppositions, notes tenues, notes courtes, graves, aigus, sombres, clairs, un accord majeur à la fin d'une pièce mineure, ou encore l'apparition du concerto de l'italien concerta dialogué, qui met en opposition un soliste au reste de l'orchestre. L'opposition entre pièces d'invention, prélude, toccata, fantaisie, et pièces construites, fugue, ne sont que des exemples. Le classicisme, plus tard, aura pour ambition de revenir à la nature. La confrontation de ces deux idéaux trouve une de ses illustrations les plus célèbres dans la véhémente Querelle des bouffons, qui confronte en France, entre 1752 et 1754, la tragédie lyrique à la française et l'opéra bouffe italien, Rameau contre Rousseau. De nombreuses formes musicales sont créées pendant cette période d'un siècle et demi. Certaines y atteignent leur apogée, par exemple la suite, le concerto grosso, pour ensuite tomber dans l'oubli. D'autres connaîtront une fortune qui durera bien au-delà de la fin du baroque. L'opéra, la sonate, qui engendrera la symphonie, le concerto de soliste. La période baroque est aussi un moment important pour ce qui concerne l'élaboration de la théorie musicale. On y passe progressivement des tonalités de la polyphonie, ton ecclésiastique du plein chant, à la gamme tempérée et haute de mode, majeur et mineur, léguée à la période classique. On aura entre-temps inventé et expérimenté de nombreux tempéraments et posé les bases de l'harmonie classique. Des instruments s'effacent, d'autres apparaissent, ou prennent leur forme définitive, pendant que la facture fait de nombreux progrès et que les techniques d'exécution se stabilisent et se codifient. Il s'agit donc, à tous égards, d'une période très féconde.
Wir werden die mir Thank you.
D'écouter Gott SWW 282 de Schultz par Sébastien Henning, Michelangelo Rossi, Sesta Toccata par Jan Plankster, Ah, laissez-moi rêver de Charpentier, direction William Christie's, Toccata au modo di trompetas, Giovanni de Mac par Andrew Lawrence King. Au XXe siècle, il va se produire un renouveau de l'interprétation baroque. Elle va se produire en deux phases, l'une couvrant la première moitié du siècle, où le public va, par exemple, redécouvrir Vivaldi, puis une seconde partie qui lui donnera un élan décisif, notamment à partir de 1953, avec l'arrivée du disque micro-sillon. En 1904, lorsqu'Albert Schweitzer fait paraître un livre intitulé « Jean-Sébastien Bach, le musicien-poète », s'ouvre alors une ère nouvelle où la musique baroque n'est plus seulement étudiée dans son architecture, certes géniale, mais aussi dans la beauté de la ligne, la vérité du dessin et dans tout ce qu'elle est capable d'émouvoir. C'est d'ailleurs en étudiant Jean-Sébastien Bach que le nom de Vivaldi apparaîtra par transcription de concertos interposés. Malgré tout, la musique baroque restera finalement assez confidentielle jusqu'en 1945. Parallèlement, en ce début de XXe siècle, quelques musiciens passionnés s'efforcent de retrouver les principes d'interprétation en cours à l'époque baroque, aussi grâce aux facteurs d'instruments qui tentent, eux, de leur refabriquer des copies plus précises. La première moitié du siècle voit aussi l'exhumation de certaines œuvres, telles que plusieurs opéras de Handel, qui n'avaient pas été interprétés depuis plus de 150 ans. Dans les années 90, le mouvement de la musique ancienne est bien ancré dans la pratique musicale grâce à une nouvelle génération, au moins en Europe. On parle alors d'interprétation baroque lorsque le chef d'orchestre décide de jouer une œuvre avec les instruments de l'époque, les rythmes dits de l'époque, souvent plus rapides, et les diapasons supposés de l'époque. Le diapason utilisé était en effet variable en fonction des lieux, souvent déterminé par la longueur des tuyaux de l'orgue de l'église, eux-mêmes fonction de la richesse de la paroisse et du budget qu'elle pouvait consacrer à la fabrication de l'instrument. Le diapason, c'est-à-dire la valeur du la de référence, pourra varier au-dessus ou en dessous de l'accord romantique. Soulignons enfin les festivals de musique baroque ayant encore cours. En effet, en Europe, notamment, de nombreux festivals se consacrent à la découverte de ce répertoire, dont ceux d'Utrecht ou encore le Festival Bach de Leipzig. En 2011 se déroule pour la première fois à Venise le Festival Monteverdi Vivaldi. En France, les festivals d'Ambronay, d'Arc-la-Bataille, de Beaune, de la Chaise-Dieu, de Conques, l'Envelec, Paris, Pontoise, de Sablé-sur-Sarthe et le Festival Symphonia en Périgord sont les plus connus.
mystery.